Stephen King aime les Cessna, Stephen King aime les journalistes, Stephen King a écrit Le Rapace Nocturne et Marc Pavia l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock et bonjour à Chris aussi.
Salut.
Ça va?
Bah écoute, ça va et toi?
Ouais, ça va, très bien.
De plus en plus aimable dans ce début de podcast.
N'est-ce pas, hein?
On fait des efforts.
À croire qu'on commence à s'apprécier presque.
Non, c'est le retour des beaux jours, le soleil, voilà.
Ça rend heureux.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, nous allons parler du Rapace Nocturne, The Night Flyer, une nouvelle publiée pour la première fois en 88, puis dans Rêve et Cauchemar en 93, et de son adaptation, qui a le même titre VO mais qui s'appelle Les Ailes de la Nuit en français, réalisée par Marc Pavia et sortie en 1997. Bon, nous allons spoiler la nouvelle et le film, comme d'habitude, et je propose qu'on y aille tout de suite.
Eh bien, allons-y.
Donc, Le Rapace Nocturne nous raconte l'histoire de Richard Dease, un journaliste pour le tabloïd Inside View, qui est un journaliste cynique, qui ne croit en rien, qui fait ses reportages sur des trucs sensationnalistes, un peu fantastiques, mais sans rien en avaler. Et il enquête sur un tueur qui se déplace d'aéroport en aéroport à bord d'un Cessna Skymaster, et dont il suppose au fil des interviews qu'il se prend pour un vampire, vu qu'il consomme le sang de ses victimes. Il finit par le rejoindre une nuit d'orage à l'aéroport de Washington où il a commis un massacre et il découvre qu'il s'agit réellement d'un vampire. Et ben pour la nouvelle, c'est à peu près tout.
Oui, c'est une nouvelle qui dure une cinquantaine de pages, donc voilà. Forcément.
Elle a d'abord été publiée dans l'anthologie Prime Evil en 88, qui a été traduite en français en 90 sous le titre 13 histoires diaboliques, avant d'être reprise 5 ans plus tard dans Rêve et Cauchemar dans une version visiblement très remaniée. Mais j'ai pas réussi à trouver la version originale, j'ai pas non plus des masses cherchées, hein. Donc je sais pas quelles sont les différences exactes. Et on peut citer de manière un peu rigolote que Richard Dease en fait apparaissait déjà dans Dead Zone, où il demandait à Johnny une interview pour Inside View, et Johnny l'envoyait chier justement.
D'accord, ah tiens.
Et dans les notes à la fin de Rêve et Cauchemar, King dit de ce personnage-là qu'il le voyait comme une incarnation d'une Amérique qui ne croit plus en rien et qui justement est dans un pur cynisme. Et il dit que le personnage du Rapace Nocturne, c'est peut-être la même créature vampirique que dans la nouvelle suivante du recueil qui s'appelle Popsy. Voilà.
D'accord.
Et c'est tout ce que j'ai sur la nouvelle. Comme d'habitude, c'est pas les récits sur lesquels on trouve beaucoup d'informations, donc on va pouvoir passer à nos avis. Je t'en prie.
Eh ben, Le Rapace Nocturne, donc, du coup, c'était la première fois, moi, que je la lisais, comme énormément de nouvelles. C'est surtout toi qui en as lu beaucoup, dans des nouvelles. C'est une nouvelle pas déplaisante à lire, qui se lit agréablement, qui est plutôt bien rythmée. On suit l'investigation de Dease, du coup, qui est fragmentée dans sa narration. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, on le voit arriver à l'aéroport où il y a le massacre final, et en fait, la scène où il atterrit sur l'aéroport est entrecoupée, oui, de plusieurs autres passages où il fait son investigation. Et donc, il rencontre des personnes qui ont connu les précédentes victimes, ou qui étaient sur les lieux, ou pas loin des lieux, au moment des crimes. Donc c'est plutôt intéressant. Mais, parce qu'il y a toujours un petit mais quand on fait des phrases comme ça, ça manque un peu de fond, de profondeur, d'éclaircissement, et en fin de nouvelle, on a l'impression d'avoir surtout lu le début de ce qui pourrait être une grande histoire de chasse aux vampires.
Oui.
Je sais pas si t'as eu le même ressenti que moi, du coup.
Bah, c'est vrai que la fin, effectivement, il se rend compte que le vampire existe, et ça va pas beaucoup plus loin, c'est
et
un peu dommage.
Là. Parce que le vampire lui fait bien comprendre que s'il continue, il va le buter, et donc,
Oui, on peut se douter qu'il va arrêter, même si ça s'arrête très peu de temps après, donc on n'est pas fixé. Bon, on peut se douter qu'il va pas être retenu non plus longtemps pour le... Parce qu'à la fin, il y a les flics qui arrivent, et comme il est tout seul sur les lieux, il est accusé du... du massacre, mais on peut se douter que ça va pas durer longtemps, parce que enfin, y a pas mal de preuves, je pense, qui montrent que c'est pas le but.
Bah voilà, c'est ça. Contrairement, on y reviendra au film qui lui fait un autre choix sur la fin et qui lui fait un choix plutôt logique et plutôt bien vu.
Ouais.
Mais donc voilà, que dire d'autre si ce n'est que bah, c'est vraiment pas une nouvelle désagréable, en fait, comme la majorité des nouvelles qu'on a abordées dans Rêve et Cauchemar pour l'instant, il me semble.
Ouais. De Rêve et Cauchemar, on a déjà parlé du Dentier Claqueur, qui effectivement était bah, un peu du même style, sympathique mais oubliable, et La Dernière Affaire d'Omney, qui était pour le coup vraiment sympa.
Ouais.
On peut tout de même noter une certaine originalité, c'est pas tous les jours que le climax où on réalise que la créature est vraiment un vampire se passe dans des chiottes avec de la pisse.
Ouais.
Ça, c'est original.
C'est vrai. Mais du coup, je me souviens que King avait dit pour Dreamcatcher qu'il voulait faire une histoire où on voit ce qui se passe dans les chiottes, mais il l'avait déjà fait. Donc il aurait pu nous éviter Dreamcatcher, du coup.
Effectivement, mais bon, Dreamcatcher, il y en a 900 pages, tandis que là, c'est 2-3 pages.
C'est vrai, et puis c'est vrai que dans Rapace Nocturne, c'est du pipi, pas du caca.
Ouais, voilà, il fallait mieux creuser le sujet.
Mais du coup, oui, Stephen King aime bien les déjections corporelles.
Mm-hmm.
Vivement sa nouvelle, où des créatures sortent, je ne sais pas, je ne vais pas terminer cette phrase parce que... Les autres propositions.
Il n'a pas fait grand chose avec le vomi, je crois, encore.
Oui, bah, il y a d'autres choses encore que le corps humain produit. Et...
Oui, oui, c'est pas faux, ouais. Il y a des films où ça a déjà été fait, mais.
Oui, oui. Spermula.
Voilà. Non, bah, voilà, c'est une nouvelle. Ouais, lisez-la, de toute façon, vous passerez un assez bon moment, mais l'enquête avance pas mal. J'aime bien quand même la manière dont il se rend compte, où il s'aveugle pendant un moment, mais il se rend compte petit à petit qu'il y a un truc, et ça passe pas mal à travers son atterrissage, où il y a de plus en plus quelque chose qui va pas très clairement dans l'aéroport de New York.
Oui. J'aime bien, en fait, j'aime bien le personnage pour son côté blasé, mais quand même prêt à tout pour faire son taf.
Oui.
Genre, il y croit plus, mais c'est comme si en fait il s'accrochait... en se disant que peut-être qu'un jour je vais tomber sur la preuve et que du coup je ne pourrai qu'y croire.
Ouais.
J'aime bien ce côté-là, ce côté fataliste, mais pas trop en fait.
Il est beaucoup plus dans le film pour le coup fataliste.
Ouais, clairement.
Mais ouais, bah, je propose qu'on s'arrête là.
Pour la nouvelle, oui, parce que compliqué de débattre sur des nouvelles de 50 pages. Mais oui, c'est pas une mauvaise nouvelle.
Bon, bah voilà, passons au film alors. Before Claire was murdered, the night that bastard flew in here. He calls himself Dwight Renfield. Latest nightmare, The Night Flyer. Le film est produit par un duo qu'on a déjà rencontré, Richard P. Rubinstein et Mitchell Galin, qui étaient déjà ensemble sur Cimetière, Les Langoliers et La Peau sur les Os. Je vous renvoie au podcast sur Les Langoliers et Cimetière pour en savoir plus sur eux. Le premier Cimetière, hein, pas le remake de 2019. Le réalisateur choisi, alors je pense qu'ils achetaient beaucoup de trucs de King à l'époque et qu'ils voyaient ce qu'ils pouvaient adapter ou pas. Et le réalisateur choisi et scénariste aussi sur celui-là, c'est Marc Pavia. C'était son premier long métrage et depuis il n'en a fait qu'un seul autre en 2016 qui s'appelle Fender Bender.
Je ne connais pas du tout.
Non, voilà, le Fender Bender, en fait, le seul truc qui m'a un peu interpellé, c'est que l'actrice principale, c'est celle qui joue la fille de l'héroïne de The Good Wife. Voilà.
Ah d'accord.
C'est Mackenzie Vega.
D'accord.
Voilà, mais bon, c'est...
petite parenthèse série, The Good Wife, c'est très très bien.
Ouais, voilà, j'ai pas tout vu, mais ce que j'en ai vu, c'était très sympa.
Là, pour le coup, c'est... L'épisode d'avant, on a parlé d'un autre procedural, Law and Order.
Ouais.
Bah là, on reparle d'un autre procedural, The Good Wife, mais The Good Wife, par contre, c'est vraiment top, quoi. Il y a vraiment un vrai développement de personnages, un attachement des persos. Il y a des bons caméos aussi qui reviennent de temps en temps, Michael J. Fox par exemple.
Ouais, et puis un bon traitement du milieu des avocats. Oui, il joue un avocat qui a Parkinson,
ouais,
Michael J. Fox, c'est ça?
Exactement.
Donc effectivement, c'est bien vis-à-vis de ce qu'il a réellement, en fait.
C'est ça. Voilà, parenthèse terminée, vous pouvez aller regarder The Good Wife.
L'acteur qui joue Richard Dease, c'est Miguel Ferrer, qu'on avait déjà vu dans Le Fléau dans le rôle de Lloyd, le principal serviteur de Randall Flagg, et qui joue le médecin légiste Rosenfield dans Twin Peaks. Catherine Blair, elle est jouée par Julie Entwistle, et là aussi, il y a très très peu d'autres choses dans sa filmographie, je suis même pas sûr qu'il y ait un autre long métrage. Visiblement, elle a été mariée à Marc Pavia, d'après ce que j'ai trouvé sur un forum, mais c'est
tout.
Voilà, c'est tout. Leur patron, il est joué par Dan Monahan, qui a aussi une petite filmographie. Lui, j'ai quand même noté qu'il est dans une trilogie de comédie érotique appelée Porky's. Voilà.
Merde.
Ça a l'air d'être des sortes d'American Pie, hein, si j'ai bien compris.
D'accord.
Voilà. Et enfin, le vampire Dwight Redfield est joué par Michael H. Moss, qui lui aussi n'a que de très petits rôles dans sa filmographie, en dehors de ça. Bref, en gros, bah, ça a été leur début et leur fin de carrière. Le rapace nocturne, enfin les ailes de haine.
Oui, sauf pour l'acteur principal.
Oui, voilà. Et le tournage n'a duré au total qu'une trentaine de jours, ce qui est relativement court.
Ouais.
Le directeur photo, c'est David Connell, qui est un régulier des collaborations entre Craig et... entre Craig Baxley et King. Donc il est sur La Tempête du Siècle, Rose Red, Kingdom Hospital, dont on a déjà parlé de La Tempête du Siècle et de Kingdom Hospital, et sur plein de séries télé, aussi en général, dont une adaptation un peu bizarre, mais si c'est bien celle que j'ai vue, pas trop mal, du Roi Singe, voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit celle que j'ai vue. Donc si ça se trouve, c'est un truc de merde, et je me trompe.
Et du coup, les gens vont te juger.
Ouais. Et il est aussi directeur photo sur L'Histoire sans fin 2.
Ah.
Voilà. Bon, on sent le manque de budget, mais je trouve qu'il y a quand même des formes de tentatives de trucs à plusieurs moments du film, notamment dans la fin à l'aéroport, sur laquelle on reviendra. Voilà, on sent une photo qui veut essayer des choses de manière pas toujours heureuse, mais bon, voilà.
Ouais, mais plus dû par un manque de budget, je pense.
Je pense.
Que par un réel talent.
Ouais. La musique, elle est de Brian Keane, qui, en dehors de ça, n'a fait quasiment que des documentaires, mais il en a fait beaucoup, pour le coup, il a une assez grosse filmo. Sorti de The Night Flyer, il n'y a quasiment aucune autre œuvre de fiction. C'est pas un travail transcendant qu'il a fait, ça fait le taf en fait. C'est assez typique des BO de films d'horreur, je dirais, pas de la fin des années 90, mais plutôt du début, voire de la fin des années 80.
C'est une BO qui colle quand tu regardes le film, mais tu n'en retiens rien.
Le thème principal est sympathique, mais sans originalité. À la limite, le thème de fin est un peu plus marquant, mais il est peut-être un peu trop over-dramatique par rapport au ton de la BO, mais au moins il est sympathique. La sortie du film va être assez compliquée parce qu'en fait le film avait été financé principalement avec des fonds européens et il va intéresser la Paramount au moment de le distribuer, sauf que la Paramount avait déjà un catalogue chargé pour un moment, donc elle voulait le sortir assez tard, le décaler de plus d'un an par rapport à la date de finition. Or ça c'était pas possible au vu des accords avec les distributeurs européens justement, avec les producteurs européens. Donc finalement, le film va sortir sur HBO, donc à la télé, le 7 novembre 1997, avant d'être récupéré par New Line pour une sortie début février dans les... Enfin, début février 98, donc, dans les salles, sans grand succès. Et il est reçu plutôt froidement à sa sortie, tant en termes de critique que de box-office, en même temps, avec une sortie aussi confidentielle, c'était prévisible. Il va ensuite gagner une petite popularité sur le marché de la vidéo, au point que Rubinstein demande à un moment à Pavia d'écrire un scénario de suite qui se serait intitulé Fear of Flying. Et visiblement, King a tellement aimé le premier jet de cette suite qu'il a fait les corrections avec Marc Pavia. Et donc il existe une suite à The Night Flyer coécrite par King et Marc Pavia, mais qui n'a jamais été tournée parce qu'aucun producteur n'a voulu le financer, disant que le film était vraiment trop... pas assez culte pour
Mais ça existe en forme de script.
Apparemment oui, mais je l'ai pas trouvé.
Voilà, il est difficilement trouvable.
Visiblement, ça serait concentré sur le personnage de Catherine Blair et ça aurait abordé un peu plus la question des origines du vampire. Malgré un budget estimé à seulement 10 millions d'euros pour cette suite, hein, donc c'est vraiment qu'il n'y a aucun producteur qui voulait s'y risquer.
Ouais.
Actuellement, il a 33% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 26e entre Le Cobaye et Couple Modèle, et 2,7 étoiles sur Allociné, ce qui le place 20e à égalité avec Cujo, Les Démons du Maïs 4 et Firestarter, Sous l'Emprise du Feu. Je vais juste signaler les quelques différences par rapport au récit d'origine. On va dire l'enquête globalement suit la même progression. La fin à l'aéroport, on va en reparler plus en détail, est très différente. Et il y a l'introduction d'un personnage supplémentaire, bah celui de Catherine Blair, qui est une nouvelle journaliste dans le journal, qui va être une concurrente du personnage de Richard Dease, et qui, elle, au début, a encore des illusions là-dessus, qui y croit encore, donc qui est un peu le contre-pied du personnage de Richard.
Je crois que j'espérais que vous me donneriez tous les bons tuyaux concernant Inside View. Vous devez bien connaître la maison depuis le temps. Vous pourriez peut-être partager votre philosophie avec moi ?
Ma philosophie ?
Votre secret ? Pour rester au top aussi longtemps, j'aimerais bien le connaître. Enfin, si vous en avez un.
Ok. Je vous le donne, prenez des notes. Ne jamais croire ce que vous publiez. Et ne jamais publier ce que vous croyez. Ça va pas, je vais trop vite.
Bien. Sans doute qu'en fait, j'espérais un peu plus de la part d'un homme qui se considère comme un vrai...
Un vrai quoi ?
Un vrai reporter.
Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute.
Alors, totale découverte que Les Ailes de la Nuit, c'est un film, moi... Je n'avais jamais entendu parler avant qu'on le tire au sort il y a maintenant 2 semaines.
Ouais, pareil. Maintenant... Je savais que la nuit avait des griffes, mais pas des ailes.
Même maintenant 4 semaines, attends.
Ouais.
4 semaines, hein, ouais. Du coup. Et... Eh ben, c'était une bonne surprise.
Ouais.
Eh ben, c'est une... Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est loin d'être nul. Les gens sur Rotten Tomatoes sont très méchants.
Ouais.
On est en phase... d'une pure production des années 90, d'une série B tout à fait honorable, qui est remplie de bonnes idées, et dont, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le manque est principalement financier, plus que de talent, en fait.
Ouais, c'est ça. Effectivement, on sent des fois qu'il y a des plans pas tout à fait réussis, on sent qu'il y a des prises qui auraient dû être faites, je crois qu'on voit des fois un peu la perche, ou
ouais. Comme
ça. Les effets stroboscopiques d'éclairs là sont assez miséreux, mais en effet tout ça, ça s'impute surtout à l'argent disponible. Sur d'autres choses, il y a eu des efforts louables de fait, notamment sur les effets gore,
ouais,
qui sont vraiment réussis.
Ouais.
Et un peu originaux, notamment celui il y a un plan sur un mec à la gorge déchirée, et en fait ça commence de dos, on a juste l'impression, bon on se doute qu'il est mort. On a juste l'impression qu'il est à peu près propre, et quand ça tourne, on voit qu'il a vraiment la gorge arrachée. C'est le vampire bourrin dans le film.
C'est ça, il est très très, très brutal. Les acteurs sont plutôt bons,
ouais.
Vraiment. Tu sens qu'ils sont investis dans leur rôle, tu sens qu'ils sont contents d'être là.
Ouais.
Il y a quelques moments où, oui, au niveau réel, ça pêche. Oui, au niveau réel, des fois, tu te dis « Ah, c'est vraiment le cul entre deux chaises, entre produit pour la télé ou produit pour le cinéma ».
Oui.
T'as des moments un peu kitschoun, je pense, au moment où Dease récupère l'affaire, parce que ça, c'est une autre différence entre la nouvelle et le film, c'est que dans la nouvelle, c'est lui qui veut cette affaire. C'est lui qui, de base, avait déjà commencé à remarquer qu'il y avait un tueur qui sévissait dans les aéroports, alors que dans le film, c'est son rédacteur en chef qui lui soumet. Il lui dit, tiens, il y a cette affaire-là, c'est la petite nouvelle qui l'a repérée, est-ce que tu voudrais pas te pencher dessus ? Et t'as cette scène du coup où il récupère l'affaire et où Catherine Blair est déçue et elle déchire son billet et tu sais elle le balance en l'air et donc il y a la caméra vue du dessus où c'est filmé au ralenti et ça aurait pu être une belle scène réussie mais il manque quelque chose, la lumière est beaucoup trop vif, l'effet de ralenti est en trop, voilà, il y a des petits soucis sur cette scène et clairement c'est un problème d'argent parce que tu sens que les mecs en fait c'est juste ils avaient pas les moyens pour refaire la scène 10 000 fois le temps de trouver la bonne prise. Quoi.
Ouais. Bah même à la fin, il y a un moment où on en reparlera où ça passe au noir et blanc et l'idée est bonne. D'ailleurs, une fois que c'est full noir et blanc, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Mais la transition entre les deux, on sent qu'elle est pas super bien gérée.
Surtout la transition de sortie, je trouve.
Oui aussi, oui.
C'est plus quand on revient à la couleur où c'est un peu brutal et un peu dégueulasse comment c'est fait. Encore celle d'entrée. Et elle
pêche déjà un peu, je crois.
Ouais, mais elle passe mieux.
Ouais.
Mais oui, on est d'accord. Mais par contre, oui, toute la séquence en noir et blanc est top.
Ouais.
Là, pour le coup, elle est vraiment très très bien.
Ouais. Là, bah, ça joue beaucoup. Bah, ça profite bien. C'est un petit budget, mais comme ça profite du brouillard et compagnie,
ouais.
De jouer sur les ombres, je pense que c'est faisable pour pas grand chose. Et effectivement, ça marche bien dans l'intention que ça veut faire passer. Donc ouais, on est face aussi à un personnage principal beaucoup plus cynique encore que dans la nouvelle, puisque là, clairement, il a plus d'illusions, il le sait et il s'en fout. C'est-à-dire il fait son boulot pour que des cons consomment ses articles,
voilà.
Et ça va pas du tout plus loin. C'est comme ça qu'il le présente d'ailleurs à la nouvelle, quand elle lui demande des conseils, il lui dit de ne croyez jamais à ce que vous écrivez et n'écrivez jamais ce que vous croyez. Donc il est purement cynique. C'est pas mal un connard, hein. D'ailleurs dans son comportement avec elle, surtout sur la fin, ça va bien se voir,
ouais.
Puisqu'il va profiter d'elle à un moment pour faire une tâche pénible, et après il va l'enfermer littéralement dans un placard,
voilà.
Pour profiter seul du scoop.
C'est ça.
Il aurait mieux fait de se casser une jambe au final. Mais...
oui, clairement.
Mais il a tenté quand même.
Et justement, le fait que le film pousse encore plus les potards à fond sur son côté, il y croit plus, il s'en fout, et voilà... Du coup, le fait qu'à la fin, quand il réalise qu'il a vraiment affaire à un vrai vampire, on se prend sa réaction encore plus dans la gueule que dans la nouvelle. Parce que vraiment, il y a ce passage vraiment fort. Bah déjà, il y a la scène de Murée Noire.
Qui est pas mal faite, d'ailleurs.
Pas mal faite. Et après, t'as le vampire qui reste derrière lui, et lui qui, on voit qu'il commence à transpirer à grandes gouttes, qui va vraiment, il commence à se faire dessus. Et il a cette petite phrase où il dit « Mais vous êtes réel ». Il le dit, il dit texto « You're alive ». Et là, du coup, tu te prends encore plus le fait qu'il ne croyait pas juste avant, et ben voilà, la réalité le rattrape totalement.
Et pour le coup, sachant que la réalité le rattrape, mais finalement, là, il est pris d'un désir de savoir qu'il n'a pas dans la nouvelle, c'est là que les différences vraiment concrètes commencent, puisqu'il va rattraper le vampire et demander à voir sa vraie forme, en fait. Et le vampire va le projeter dans son monde, en fait, lui faire boire son sang. On peut se douter que ça le transforme, ou du moins que ça lui donne, on ne sait pas si c'est momentané ou non, les capacités du vampire. Et il va voir en fait un monde des sortes de limbes, où il retrouve aussi tous les gens qu'il a fréquentés. Ouais, voilà, c'est ça, tous les gens qu'il a fréquentés. En fait, il est mis face à ses propres démons en voyant une sorte de monde des morts. Et ça, c'est vraiment intéressant visuellement.
Oui, parce que du coup, il est aussi face à son ancienne... collaboratrice.
Oui, c'est ça.
Dont on apprend l'existence au début du film, ancienne collaboratrice qui à un moment s'est suicidée. Et il y a ce passage très intéressant dans le film où Catherine sous-entend, au moment où l'autre l'enferme dans le placard, est-ce que ça serait pas lui qui aurait poussé son ancienne collaboratrice à se suicider directement ?
Oui, par son comportement, sa propre attitude, ouais.
Et à ce moment-là, t'as ce petit arrêt de Diz qui... Du coup, toi-même, tu sais pas, est-ce que...
Elle veut aussi lui dire qu'il est en train de devenir comme elle, justement.
C'est ça, en plus.
Ouais.
T'as le parallèle, quoi.
D'ailleurs, il y a ce passage assez réussi pour bien installer le caractère du personnage, où quand il constate que sa collaboratrice s'est suicidée, son premier réflexe, c'est de prendre une photo.
Oui, c'est pas une photo. Pour montrer la morbidité du perso qui en a plus rien à foutre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, t'as tout ce passage, dans les limbes, mais je veux revenir juste un petit peu avant... Parce que le maquillage du vampire est super réussi.
Oui.
Il est top.
Il fait vraiment monstre pour
ouais.
le coup.
T'as ce moment du coup où il apparaît, il lui monte sa gueule et justement il se met à hurler. Et donc t'as sa mâchoire qui se déforme de manière disproportionnée.
Ouais.
Avec en fait donc le vampire décrit, enfin qu'on voit dans le film, parce qu'il n'est pas du tout décrit dans la nouvelle, le vampire qu'on voit dans le film n'est pas comme les vampires classiques, c'est-à-dire il n'a pas des grandes canines.
Ouais.
Il a juste une énorme dent centrale au milieu de la mâchoire. On comprend que c'est de là que viennent les énormes trous dans les gorges de ses victimes, quoi. C'est juste que...
Faudrait que je revérifie, mais je me demande si du coup ça correspond pas à la description un peu de la créature dans Popsy. donc dans la nouvelle dont King disait
que ça serait potentiellement le même vampire.
Ouais.
Mais ouais, le maquillage est super bien fait, l'effet visuel quand il ouvre la gueule et de sa canine, enfin de sa dent centrale qui s'allonge, il est super bien fait aussi. Ouais. C'est vraiment, les effets visuels sont vraiment top, quoi.
Ouais, et puis l'idée est bonne justement de changer un peu du vampire traditionnel, de le montrer vraiment comme un monstre qui massacre.
C'est ça qui est marrant, c'est que on va utiliser la formule classique, c'est entre modernité et tradition.
Ouais.
Parce que niveau visuel, il n'a rien à voir, mais son attirail, son design vestimentaire, on est dans du pur vampire classique.
Oui, dans du vampire gothique, ouais.
Il a une grande cape avec le grand... comment ça s'appelle
Le grand col.
Le grand col, qui prend tout le tour de la tête. C'est marrant, c'est vraiment un design qui mélange de l'originalité et comment on peut se représenter le vampire traditionnel gothique.
Et il y a 2-3 scènes niveau réalisation aussi qui fonctionnent plutôt bien, notamment quand on comprend que le vampire est chez un couple de personnes âgées.
Ouais.
Et il y a tout un plan où on suit la dame. Alors on sent qu'il se passe des trucs un peu chelous dans d'autres pièces, mais on voit pas tout. Entend des bruits, et ce plan-là est vraiment bien fait, je trouve.
Parce que la dame, on comprend qu'il l'a hypnotisée, quoi.
Ouais. Donc il y a vraiment pas mal de bonnes intentions, pas mal de bonnes idées. Voilà, tempéré par le budget, c'est pas parfait. Mais j'aime bien cette volonté aussi, cette version extrême des personnages, sortie de Catherine pendant un moment, c'est tous des salauds.
Ouais. Oui, parce qu'elle après du coup se transforme à la fin, quoi. Elle devient comme lui.
Puis au final, sa décision de fin, c'est de faire le rapace nocturne, personne n'y croirait si je disais que ce vampire existe. Donc je vais suivre ce que dit la police. Parce que là, autre changement, la police va abattre le personnage de Richard parce qu'il a glissé dans le sang, donc il est couvert de sang, il est hagard.
Il a une putain de hache dans la main.
Et il a une hache dans la main aussi, c'est vrai que ça joue, parce que dans les limbes, il essayait de se battre contre
les visions.
Contre les visions. Donc la police là-bas, elle décide, elle, de jouer là-dessus et de faire un article en disant c'est le journaliste qui était devenu fou depuis le début, alors qu'elle a aussi vu le vampire.
D'ailleurs, c'est top parce que c'est sur ça que termine le film, c'est sur la première page, la couverture carrément du prochain numéro de Inside View, où on voit la photo qu'elle prend à la fin. Donc en gros plan, on voit Diz étendu par terre, mort, avec son petit portrait où tu vois qu'elle n'a aucun sourire sur le visage. Elle est vraiment aussi froide que lui l'était en fait pendant tout le film.
Et oui, ça aurait pu être intéressant de voir une suite. Ah ça,
clairement, oui, avec elle du coup qui quand même voudrait en savoir plus sur ce qui s'est passé, quoi.
Oui, c'est ça.
Parce que elle du coup elle n'aura pas ce futur, mais je sais pas, elle l'a jamais vu.
Elle sait pas les détails, mais
oui, elle sait que l'autre a mené une enquête, mais elle sait pas plus.
Elle sait qu'il existe, c'est tout.
Voilà.
Mais voilà. Mais après, oui, c'est vrai qu'elle a pas les résultats de son enquête, qui sont pas partagés grand chose.
Oui, voilà. Il a surtout dit fais ça, et puis voilà.
Ouais, c'était un peu ça. Je l'ai vu en VF aussi, plutôt bonne VF pour le coup.
D'accord, je l'ai vu en VO donc.
Voilà, elle marche plutôt bien. Mm-hmm. Donc globalement, effectivement, bonne surprise, bonne petite série B que sera Passe Nocturne.
Bah oui, c'est ça, c'est vraiment, tu passes un bon moment.
A noter aussi que par rapport à la semaine dernière, cette fois-ci, les vampires n'ont pas de reflet réellement.
Oui.
Voilà.
Là, on respecte vraiment. D'ailleurs, il y a ce passage-là aussi dans les chiottes où les miroirs explosent les uns après les autres, qui est vraiment bien rendu aussi.
Ouais.
Parce que tu as le miroir qui commence à se distordre, après paf, il craque, et ainsi de suite. Paf. Les effets visuels du film sont vraiment réussis.
Ouais, ça, c'est vraiment le budget qu'il avait, surprises. C'est surprenant.
Bah, du coup, tu comprends peut-être pourquoi niveau visuel, niveau réel et niveau lumière, ça pêche un peu, parce que à mon avis, tout a été foutu dans le...
Ouais, c'est fort possible.
Dans les effets visuels.
Mais je pense que s'il avait eu droit à une sortie salle un peu moins chaotique, un peu plus calme, il aurait pu avoir son petit succès et peut-être engranger cette fameuse suite. Je pense qu'il a été un peu victime de ses conditions de production et de diffusion, ouais.
Ouais, il aurait pu obtenir un petit statut un peu culte, film de fin des années 90.
Ouais.
Tout à fait.
Mais bon.
Non, chose qu'on n'a pas parlé aussi, du coup, c'est le fameux coucou.
Le Cessna.
Le Cessna, parce que là, on voit l'intérieur du Cessna dans le film. Chose qu'on ne voit pas du tout dans la nouvelle. Et en fait, j'aime beaucoup l'aspect dégueulasse qu'ils ont donné à l'habitacle.
Oui.
Avec, qui est recouvert de sang, mais de sang frais et de sang séché.
Oui, on sent que c'est différentes couches successives de massacres qu'il a ramené ici. Même tout ce qui est autour des vers, la terre avec des vers dedans, ça donne un aspect un peu bizarre qui marche pas mal.
C'est ça, et puis ce passage où il est dedans, tu sens l'oppression que ressent le personnage à être dans ce tout petit habitacle avec recouvert de sang partout, et derrière c'est dégueulasse parce que t'as des vers et de la terre. Et tu vois qu'il y a l'Inside View.
Oui, il y a pas mal de numéros de l'Inside View.
Et surtout, il y a le numéro qui annonce que l'enquête est en cours, et tu comprends, du coup, c'est comme ça que le rapace nocturne apprend que l'autre est en train d'enquêter sur lui.
Mmh. Même si on peut se douter qu'il a aussi des pouvoirs, il y a plusieurs scènes qui laissent un peu supposer.
Oui, que des fois, qu'il serait capable de communiquer à distance, et comme ça, qu'il, parmi le couple, la dame du couple de petits vieux, on comprend qu'en fait, il l'a hypnotisé à distance avant qu'eux-mêmes ils n'arrivent. Quoi.
Il y a cette scène un peu rigolote où il offre un Bloody Mary aussi, justement.
Oui.
C'est un peu rigolo.
Oui. Et puis, avec écrit sur la serviette...
Arrête-toi
là.
Ouais. Voilà, moi je vois pas quoi ajouter.
Non, on peut passer à...
On peut passer à une petite scène. J'ai
trop peur. Dracula. Ma belle-mère, ça me déconcerte. Laisse toujours sa porte entrouverte. Et tu ne viens jamais chez moi.
Très bien, donc une nouvelle fois, on avait déjà fait 5 fois, on ne va pas vous lire d'extrait du livre, parce que la scène qu'on a choisie dans le film est une des scènes nouvelles, qui ne vient pas de la nouvelle. Rigolo ça. Une scène nouvelle qui ne vient pas de la nouvelle. On se contente de peu.
Oui.
C'est justement la scène des limbes à la fin, donc... La nouvelle vraiment se termine quasiment sur la scène dans l'urinoir et sur le vampire qui déchire la pellicule de Richard. Et puis il s'éloigne, on entend son Cessna qui part, la police arrive, soupçonne et arrête Richard. Tandis que là, effectivement, il y a une rencontre supplémentaire où Richard va être projeté dans les limbes par le sang du vampire.
Voilà.
Voici la scène.
Dwight ! C'est ta tête que je veux voir ! Allez, montre-moi ta tête!
Il faut que je la voie.
Ça devait sans doute arriver. Tu as passé toute ta vie à me chercher. Dans les morgues, dans les cimetières, dans le visage des malades et des morts. Ton inlassable quête est aujourd'hui récompensée. Car me voilà, face à toi, mon cher ami. Est-ce que je ne réponds pas à tous tes espoirs? Ne suis-je pas à la hauteur de ce que tu avais imaginé? Bien réel. Toi qui as toujours souhaité savoir à quoi ressemblait l'enfer, tu vas en avoir un aperçu.
Très bien, donc voilà, cette scène, bon déjà elle est assez chouette visuellement, mais ça vous n'avez pas pu trop en profiter. Mais surtout on l'a mise parce qu'on trouve que ça fait une bonne conclusion, et en fait une meilleure conclusion au récit que dans la nouvelle.
Ah oui, bah ça fait une conclusion.
Ouais.
En fait tout simplement, ça fait une conclusion et elle est plutôt bien vue.
Dans la nouvelle, il y a une sorte de logique, il recherchait tout du long quelque chose qui le convainc que le fantastique existe, et finalement, ça lui apprend à se méfier de ce qu'il souhaite.
Oui,
mais
bon, c'est... ça fait plus... En fait, moi, comme j'ai dit, je trouve que ça fait plus, du coup, élément perturbateur qui va lancer l'intrigue
oui.
qu'autre chose. justement.
Oui, ça aurait pu, effectivement.
Alors que là, ça fait une conclusion déjà logique, parce que du coup, il se brûle, enfin, il se prend la réalité dans la gueule et le vampire existe. Et ça utilise de bonne manière le personnage introduit pour l'occasion du film, puisque du coup, c'est elle qui devient Richard.
Oui.
Du coup, c'est elle qui acquiert une nouvelle personnalité, c'est-à-dire celle de Deez. Et puis lui, du coup, vu qu'il n'a plus rien à accomplir, il y passe.
Oui.
En fait, il y a aussi ça.
Comme si la réalité du vampire était trop brutale pour qu'il puisse la supporter. D'une certaine façon, il y a la même idée, le vampire lui donne ce qu'il veut, mais c'est un cadeau empoisonné.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est plus que la scène de l'abysse dont on parle, c'est à partir du moment où il y a le face-à-face avec le vampire.
Ouais.
C'est là où tout devient différent de la nouvelle, et tout est tellement bien amené et tout est logique avec tout ce qu'on a vu avant qu'en fait ça perturbe pas.
Ouais, et puis ouais, Miguel Ferrer est bon dans sa manière de... Bon, s'il chute finalement assez brutalement, il était quand même dans le même comportement pendant longtemps, à devenir de plus en plus obsédé, certes, mais aussi de plus en plus cynique. Et là, c'est vraiment une chute assez brutale pour son personnage, oui, qui est plutôt bien joué, je trouve.
D'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé, il y a aussi, pour montrer à quel point le personnage n'a plus aucun rapport terre-à-terre avec la vie humaine ou avec la violence qu'on peut voir tous les jours, il y a ce passage-là qui, me semble, n'est pas dans la nouvelle, où il arrive sur une route où il y a eu un accident de voiture.
Oui. Et où son réflexe, c'est de sortir, prendre des photos.
Prendre des photos des cadavres, en envoyant chier le flic qui vite se barrer.
Oui, de manière assez mécanique en plus, on a l'impression qu'il fait ça par réflexe, plus que par intérêt réel. Ouais.
Et cette scène-là apporte vraiment beaucoup à la construction du personnage.
Ouais.
Il fallait en parler, je viens de me réaliser qu'on en a pas parlé.
Oui, c'est vrai qu'elle est bien cette scène-là.
Parce qu'en plus, il y a ce passage où il est face à un cadavre, mais en fait la personne est morte de manière à en fait cacher son visage.
Ouais, et il bouge le bras pour avoir une meilleure photo.
Lui il s'assure que les flics ne regardent pas et tac il vire le bras avec du pied, donc c'est vraiment, il a plus aucun respect quoi pour la personne. Il vire le bras du pied, comme ça il peut prendre le visage du cadavre quoi directement. Voilà, il fallait qu'on en parle.
C'est une sorte de retour total de culpabilité, vu que il y a plein des gens qu'il a rencontrés pendant le film qui reviennent vers lui sur la fin.
C'est ça. Donc voilà, il fallait en parler de cette scène parce qu'elle apporte vraiment quelque chose au personnage principal, quoi, parmi les scènes qui ne sont pas dans la nouvelle. Et du coup, en fait, ouais, ça me renforce dans l'idée que la nouvelle pose des idées et que le film, en fait, les développe.
Ouais.
Et il les développe tellement bien que ça passe tout seul.
Et ouais, je pense vraiment que l'ajout du personnage de Catherine est important aussi, parce que ça fait totalement... Enfin, c'est un contraste important par rapport au personnage de Richard, qui va se faire manipuler à la fois par lui et par le patron. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un bon gros connard, lui aussi.
Oui. En fait, il manipule les deux, quoi.
Ouais, c'est ça. Et y a l'idée que dans ces tabloïdes, finalement, il n'y a pas moyen d'être autre chose que cynique.
Un
truc genre le nouveau détective.
Voilà. Sauf que le nouveau détective, est chez donc magazine français,
Cocorico.
Ouais. Le nouveau détective, c'est que des faits réels et divers. Il n'y a pas de truc...
Alors divers, d'accord, réels, moi je...
Non, enfin, réalistes, oui, voilà.
Parce que, à mon avis, il y en a... Enfin, quand je regarde les couvertures, je pense que c'est pas possible, il y a plein de trucs.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'était réaliste, enfin, qui pourrait
se passer. Oui, c'est ça, il y a pas le côté fantastique d'Inside View, oui, qui joue plutôt là-dessus.
Par contre, ça existe, des magazines comme Inside View, mais j'ai pas les noms en tête, mais ça existe, et autant chez nous que dans les pays anglophones, quoi.
En France, c'est vrai que j'en connais pas trop, des comme ça...
Mais ça existe.
Ouais.
Et là, tu te dis, ah oui, quand même. Genre, mon chien m'a enfanté. Voilà, c'est... On pourrait trouver des choses comme ça.
C'est un bon titre, ça.
Ah oui, n'est-ce pas?
Ouais.
Donne-moi le budget.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On classe ça?
Ben, allons-y.
Allez, c'est parti.
Il est grand temps de passer au classement des écrits. Classement qui compte actuellement 31 textes. Pour les trois premiers, nous avons Cimetière, Ça et Charlie. Et pour les trois derniers, L'année du loup-garou, Dr Sleep et Grand Chauffeur. Alors, où placer Le Rapace Nocturne? Pour moi, Le Rapace Nocturne, c'est du milieu de classement.
Oui.
C'est ni mauvais ni bien. C'est une nouvelle qui se lit correctement.
Oui, après, comme il faut quand même pas mal descendre pour tomber sur du mauvais dans les livres...
Oui, voilà, c'est ça, en fait. Où est-ce que je mettrais le Rapace Nocturne ? Vraiment, des fois, quand je vois notre classement, il y a des trucs qui m'échappent.
Non, il est parfait, notre classement. C'est quoi qui t'échappe ?
Le fléau et Dreamcatcher, c'est au-dessus de la dernière affaire d'Amnay, ah bon ?
Je crois que c'est pour le côté roman et parce que il y a des choses qui marchent quand même pas mal dans les deux. Il y a de l'idée, je crois que c'est pour ça qu'on avait décidé de ça.
Parce qu'en fait, je préfère quand même... Je pense que je préférerais relire la dernière affaire de Ney plutôt que le Rapace Nocturne.
Ouais.
Pour son originalité.
Moi, je pense que vu Imprenable sur Jardin Secret, je préfère aussi celui-là au Rapace Nocturne, quand même.
Ouais, c'est pas faux, ouais. Par contre, mon l'autovirus... C'était bien, mais c'est en fait ça a le même souci, l'autovirus.
Ouais.
Sauf que j'ai peut-être plus d'affection pour le côté enquête du Rapace Nocturne. Pour moi, ça sera entre...
Enfin, l'autovirus, ça a quand même une fin.
Hein ?
L'autovirus, ça a quand même une fin, au final.
Ouais, mais... Je trouvais que ça... Il n'y avait pas vraiment d'ambiance ou quoi que ce soit dans l'autovirus, ce qui me concerne. Alors, pour moi, ça serait soit, du coup, entre Vue Imprenable et l'autovirus, soit... Entre l'autovirus et Bon Ménage.
D'accord.
Sachant que j'ai quand même une préférence pour entre Vue Imprenable et l'autovirus.
Ouah, ça me gêne pas. Ça me va.
On va pas se battre pour ça.
Moi, je l'aurais mis en dessous de Bon Ménage, je pense. Mais
ouais, carrément.
Ouais. Parce que j'aime bien quand même le côté enquête de Bon Ménage, mais bon, ça me va quand même, t'inquiète.
D'accord.
Ça me passe. C'est des endroits où tout est très proche pour moi.
Oui, voilà, c'est ça, voilà. En fait.
Donc c'est la 23e place entre Vue Imprenable sur Jardin Secret et Quand l'autovirus met cap au nord. Et nous allons maintenant classer le film. Donc le classement film compte 41 titres pour le moment, à commencer par Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux trois dernières places, Les Enfants de Salem de Larry Cohen qui vient d'y rentrer, on applaudit le petit nouveau, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et comme on a dit, c'est plutôt une bonne surprise,
ouais.
Donc déjà on va être, je pense, dans la première moitié du classement.
Oui, ça, sur ça je te suis.
Ensuite,
Ah oui, hein.
Je le mettrais bien, moi, dans la zone qui va entre le cimetière de Marie Lambert et La peau sur les os de Tom Holland, parce que c'est tous les films dont je dirais à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes idées, mais que le budget et quelques éléments les empêchent d'être vraiment, vraiment grandioses.
Ouais, c'est un peu dans cet endroit-là que je le verrais.
Mais pour moi, on est dans cette zone-là. Peut-être au-dessus de Quicksilver Highway.
Ouais, moi, c'est exactement la place à laquelle je le voyais.
Entre Les Langoliers et Quicksilver Highway, parce que Les Langoliers, je suis un peu plus attaché à certains trucs, quand même.
Moi aussi, et Quicksilver Highway... C'est bien, hein, mais le meilleur segment, c'est celui adapté de...
Ouais,
de Barker.
De Barker. Ouais.
Pas celui adapté de King.
Ouais. Donc ouais, bah on va dire à ce moment-là, 13e place.
Ouais, entre Les Langoliers et Quicksilver, ouais, moi ça me va bien.
Parfait.
Moi, des petites séries B comme ça, j'en veux tous les jours.
Bah oui, ça fait plaisir d'avoir une bonne surprise comme ça. Bon, surtout après La Purge qui a été l'autre.
Oui, c'est vrai.
Celui de la dernière fois. Même si moi, je les avais regardés dans l'autre sens, j'ai d'abord regardé Le Rapace Nocturne. Et donc j'avais un peu d'espoir d'une autre bonne surprise pour...
Alors, fun fact...
Pour Les Enfants de Salem.
J'ai regardé Les Enfants de Salem hier soir, le jour où on enregistre, donc ouais. Samedi soir. C'était chiant comme la mort, il était 19h, le film s'est terminé, il était quoi ? Du coup, il était 21h30.
Bah, si t'as commencé à
19h... Non, 20h30 même.
Ouais, voilà.
J'étais fatigué, du coup, d'avoir regardé Les Enfants de Salem. Donc je lance ensuite Le Rapace Nocturne. Et...
En n'ayant pas envie...
Bah déjà, oui, en n'ayant pas envie, puisque tu t'es bouffé 1h30 de merde juste avant. Et vraiment, Issam, je regarde le film, et au bout de 30 minutes, je me dis, attends, c'est beaucoup mieux que ce que je m'attendais. je suis fatigué, j'arrête là et je vais regarder demain matin.
Bah, moi, j'étais plutôt en forme en lançant, mais c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, je me dis, mais en fait, c'est bien, je passe un bon moment, alors que je m'attendais à une merde. Tu sais, j'ai le moment de surprise en me rendant compte moi-même que je passe un moment depuis une demi-heure.
Et du coup, tu kiffes.
Ouais.
Et du coup, ouais, je me suis dit, attends, non, c'est bien, mais le problème, c'est que moi, là, je suis fatigué et que je vais pas apprécier, en fait. Donc, je coupe et je regarderai demain matin. Et donc, du coup, j'ai regardé Le Rapace Nocturne ce matin avant de
D'accord.
venir.
Donc, c'est rigolo,
encore,
oui.
C'est encore tout frais dans ma tête.
Bon, bah, allez, on va pouvoir tirer au sort, hein, maintenant.
Ah bah oui, c'est vrai. Le moment que le monde entier nous envie, Issam se lève de son fauteuil et va chercher la boîte magique.
Et tu es le premier à tirer aujourd'hui.
Ça me fait plaisir de le savoir. Alors, oui, désolé, on n'a pas de
l'inquiétude.
On n'a pas de moyens, on n'a pas de tambour. Hop, je retends la boîte à Issam.
Merci.
Alors, et j'ai tiré. Ah, j'ai tiré. Il va falloir prendre son temps. Enfin, prendre son temps. Il va falloir prendre le temps de lire, parce que c'est un sacré pavé qu'on va lire,
ouais.
Parce que j'ai tiré La ligne verte de Franck Darabont.
D'accord. Ah bah, enfin Franck Darabont, parce que ça fait 2 saisons qu'on l'a pas eu, alors qu'il en a fait 3 des adaptations de Kino.
Exactement.
Donc La ligne verte de Franck Darabont.
Et du coup, ça veut dire que dans 2 semaines, on parle d'un bon film.
Ouais.
D'un bon roman. Ouais. Ça va être bien.
Et moi, je vais tirer... celui-là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je ne l'ai pas lu.
Ah.
J'ai tiré Dans les hautes herbes de Vincenzo Natali, adapté donc de la nouvelle éponyme écrite, enfin coécrite par King et Joe Hill, son fils.
Adapté par Netflix, ou en tout cas l'adaptation.
C'est sur Netflix, effectivement. Et bah, ça me donnera l'occasion de lire les nouvelles, et j'aime bien ce que fait Natali dans l'ensemble, donc je suis assez curieux.
Mais du coup, t'as pas vu le film non plus ?
Non.
Ça va être totale découverte pour toi, ouais. et moi.
Très bien, donc ça, je suis plutôt curieux de voir les... Enfin, curieux pas pour La ligne verte, parce que je l'ai déjà lu et je l'ai déjà vu, mais
moi aussi.
Ça va être sympa d'en parler. Mmh. Et curieux pour Dans les hautes herbes. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur les réseaux sociaux.
@cinémaarchiviste pour toi, @gradibule pour moi.
Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Discord, on mettra le lien dans la description. On ne sait pas trop où on en sera des discussions pour notre nouveau podcast d'ici la sortie de cet épisode-là, mais on vous tiendra au courant de toute façon sur tous ces réseaux autour de ça. Puis ça me paraît tout, on a tout dit.
Bah, il me semble qu'on a tout dit, on peut dire au revoir maintenant.
Au revoir, à dans 2 semaines pour La ligne verte, et n'oubliez pas...
que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Salut.
Salut.